La première,
des Belges bien barrés,
Jean-Marc Panis.
Bonjour et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode des Belges bien barrés. C'est un de nos fleurons littéraires qui vont avec la régularité d'une pièce horlogère helvétique des centaines de milliers d'ouvrages à chaque rentrée, et ça fait 30 ans que ça dure. Si ces livres sont faciles à lire, elle ne verse pas dans la facilité et prend plaisir à glisser dans leurs pages des mots qui donnent envie d'ouvrir un dictionnaire. Ses apparitions médiatiques sont prisées de tous car elle a la verve et l'excentricité qui plaît tant aux caméras des plateaux de télé. Amélie Nothomb est notre Belge polie, bien élevée, mais aussi très bien barrée. Et comme nous sommes aussi bien élevés, on démarre en lui demandant si tout va bien.
Des Belges bien barrés
sur la première.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Ouais. On dit pas ouais, ma fille me dit on dit pas ouais, on dit oui. La séquence dans laquelle je vais utiliser le résultat de cet entretien s'appelle « Les Belges bien barrés ». Et mon idée, c'est évidemment de jouer sur le double sens du mot « barré », soit des gens dont les Français, ils sont en train de nous écouter, donc je vais être prudent, disent des Belges qui sont décalés, qui osent tout, ce genre de choses. Voilà, donc le côté un petit peu barré, effectivement. Et l'autre, c'est bien barré parce que ça marche plutôt bien pour eux. Est-ce que vous comprenez que j'ai l'honneur de vous placer dans cette séquence
des Belges? Mais j'en suis très fier. Des deux sens, d'ailleurs.
D'accord. Est-ce que vous vous estimez faire partie des deux tiroirs?
Bah oui.
Vous avez envie de développer ou pas spécialement?
Non, ça me paraît une évidence dans les deux cas.
Les prénoms, donc, c'est quelque chose qui a quand même accompagné toute la vie littéraire à Amélie Nothomb, je pense. Comment ça marche, le choix des prénoms chez vous?
Ce n'est même pas indispensable que le prénom soit couché dehors. Ce qui est terriblement important, c'est que le prénom convienne. Rien n'est plus important pour démarrer une vie que de porter un prénom qui exprime très exactement ce que vous êtes.
Petite, je voulais devenir Dieu. Puis, consciente de mon excès d'ambition, j'acceptais de faire martyr quand je serais grande. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale.
Je prétends que chaque personne a, dans l'univers des prénoms, un seul prénom qui lui convient. Bon, peut-être deux. Je n'ai pas beaucoup de théories sur les prénoms doubles qui me laissent assez perplexe. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'existe pas 36 façons de nommer une personne. Les parents peuvent parfois se tromper. Voilà, c'est très platonicien comme théorie du langage. Je pense qu'il existe un mot pour désigner chaque chose et c'est vrai, le prénom fait partie de cette théorie. Vous savez, Platon, c'est très beau, c'est dans le Cratyle. Platon dit qu'il faut faire sonner les choses sur le tuyau du langage et qu'en écoutant profondément la résonance, on peut entendre le nom ou le prénom qui convient. Et je pense qu'on doit vraiment faire ça et qu'il y a malheureusement des parents qui font des erreurs.
Qui ont un mauvais tuyau.
Voilà, qui n'ont pas un bon tuyau, c'est exactement ça.
C'était le cas de vos parents, Amélie, si c'était à refaire?
Alors, ils n'avaient pas choisi Amélie parce qu'il y avait un interdit familial autour de ce prénom. Donc, ils ont pris le premier truc qui passait, c'est pas grave, de toute façon, je n'ai jamais porté ce prénom. Donc,
Amélie, vous n'êtes pas Amélie, en fait, si je peux me permettre.
Sur ma carte d'identité, c'est pas mis Amélie, mais ça n'a aucune importance puisqu'on ne m'a jamais appelée autrement. Mais c'est vrai que ça rend les gens perplexes quand ils voient que sur ma carte d'identité, c'est un autre prénom.
Quel est ton nom?
Ton officier commandant t'a posé une question.
Nothomb, c'est juste. Hein.
Nothomb, c'est juste, oui.
Ah, vous dites
Nothomb. Et pourtant, j'ai tout fait pour qu'on... Quand je suis arrivée chez mon éditeur, j'ai dit que je voulais m'appeler Amélie Casus Belli. Allez savoir pourquoi ils n'ont pas voulu de ce prénom, pourtant, de ce nom de famille, pourtant très discret.
Oui, qui fait un peu yogourt aussi.
J'y avais pas pensé.
Phonétiquement, comme ça.
C'est vrai.
Il me semble que dans un de vos livres, alors où est la réalité, où est la fiction, on va pas lancer un débat, mais vous étiez censé être un garçon et ça aurait été un nom encore plus, enfin encore moins...
Je devais m'appeler Jean-Baptiste. Ça, voilà. Par contre, ça n'était pas du tout laissé au hasard. C'était très important, c'est un prénom familial très important. Et donc, mes parents étaient sûrs, vous savez, ces fameuses intuitions. Ils étaient sûrs, quand j'étais dans le ventre de ma mère, que j'étais un garçon. Donc, ils n'avaient même rien préparé pour le cas d'une fille. Et or, je suis née à l'envers. Donc, c'était comme leur faire un pied de nez. Mais donc, je me suis appelée pendant 9 mois Jean-Baptiste. je pense qu'il en reste quand même quelque chose. D'abord, Jean-Baptiste, c'était le notombe important puisque c'est celui qui a écrit la Constitution belge.
L'article 60 dit ceci. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants.
Donc, c'est... voilà, on attendait de moi que j'écrive quelque chose d'important. Alors, je suis désolée, je n'ai pas écrit la Constitution. J'ai écrit mes constitutions à moi, qui sont évidemment beaucoup moins importantes.
Mon grand-père paternel s'appelait Jean-Baptiste, mais tout le monde l'appelait René.
Ah, c'est drôle, ça. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Ça venait, c'est Bouillon, je pense, ou Corbion. Je ne sais pas si c'est une attitude... j'ai peur de dire à Gomez ou à... c'est Ardennais, hein, Ardennais Bouillon.
Oui.
Voilà, on ne l'a jamais appelé, alors que je trouve ça plus chic quand même, Jean-Baptiste, que René.
Oui, j'aime mieux Jean-Baptiste que René, moi aussi. Mais je n'ai pas connu votre grand-père, c'est ça ?
Moi non plus.
Mais peut-être que malgré tout, René lui convenait mieux. Peut-être qu'en faisant sonner votre grand-père sur le tuyau du langage, la résonance était René plutôt que Jean-Baptiste.
Allons savoir.
Allons savoir.
À Belle-Aneuve, ma belle-mère, pour tout vous dire, qui s'appelle comme ça, vous savez tout, Danielle, a habité à Belle-Aneuve longtemps. Et je vous ai vu un jour de ce qu'on appelle une kermesse, dans Belle-Aneuve, avec les autotampons.
Ah, mais vous m'avez vu quand j'ai tiré au fusil.
Oui.
J'aime beaucoup ça. Je suis très mauvaise. J'adore faire ça, mais j'adore. J'ai quand même gagné une peluche, un lapin bleu.
Et vous en avez fait quoi ?
Je l'ai donné à l'un de mes neveux. J'adore la foire.
J'ai l'impression, même quand on vomit de la jupilaire.
Mais oui, mais écoutez, j'aime bien la jupilaire et je dois avouer que c'est vrai qu'elle est bonne dans les deux sens. Une bonne jupilaire, on ne peut pas se tromper, je suis tout à fait d'accord.
Et donc justement, qu'est-ce qui reste ? Ah, il y a... Alors, je vous présente Jonathan, qui est l'ingénieur du son, qui gère tout ça et qui écoute évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qu'on dit, il n'est pas d'accord du tout.
Ah merde.
Il est Stella. Et effectivement, je pense que... Et puis quand même, la Belgique se sépare en deux. Il y a les Jupilers, très bu par les Flamands d'ailleurs. Et puis il y a la Stella.
Alors, j'aime bien la Stella, mais honnêtement, je préfère la Jupilère. Je ne sais pas ce que ça signifie sur moi, mais j'ai quand même beaucoup fait le test et je préfère la Jupilère.
Mais revenons à cette foire, parce que vous aviez l'air de prendre effectivement un plaisir d'enfant. Il faut qu'on évoque l'adolescence, parce que c'est quand même quelque chose qui traverse beaucoup vos livres. Et, je peux me permettre, si j'arrive à me relire, est-ce que vous êtes prête ?
Je suis prête.
Je vais me relire, donc ça sera un peu bancal. Le monde des teenagers l'attirait aussi peu que possible. 13 ans, se devait être plein de déchirures, de malaise, d'acné, de premières règles, de soutien-gorge et autres atrocités.
Robert des noms propres.
Bam. 1 sur 1. Bien joué. Pourtant, il y en a un paquet quand même. C'est violent, évidemment. Moi, je n'ai jamais été jeune fille et puis adolescente
non plus.
C'est
détestable. Vous ne savez pas l'horreur que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que l'adolescence au masculin. Peut-être c'est bien, j'en sais rien. Mais
non,
au féminin,
top.
C'est horrible.
Il fait beau la plupart du temps. Mais l'ado noir et blanc.
Ça vous a marqué à ce point de devoir quoi l'écrire, de devoir vous en souvenir de...
Tout ça, le vivre. Le pire, c'était quand même de le vivre. Je ne souhaite à personne d'avoir 13 ans.
Quand on doit passer, parce que c'est assez beau la façon dont votre héroïne a envie de retenir avec ses petites mains, mais n'y arrive pas évidemment, l'enfance qui s'en va. On devrait passer quoi, de 12 à quoi ?
De 12 à 20 ans en un coup.
D'accord.
Franchement, toutes les années dans l'intervalle, on peut toutes les rayer. C'est... Voilà. Mais le pire, c'est quand même 13. 13 ans, c'est vraiment l'année que j'aurais voulu ne pas vivre.
Vous étiez où ?
Oh, jetons un voile pudique sur tout ça. C'est une année que je n'aurais pas voulu vivre.
Vous ne voulez pas en parler, mais vous aimez en l'écrire.
J'éprouve un certain besoin d'en parler parce que je me rends compte que nous sommes quand même très nombreux à avoir vécu cette expérience d'avoir 13 ans. Et c'est pour moi un véritable questionnement. Comment avons-nous fait pour survivre ? Parce que je suis toujours persuadée que si quelque chose m'est arrivé, c'est que c'est arrivé à d'autres. Je ne suis certainement pas unique dans mon expérience. Chaque fois que je rencontre une personne, j'ai envie de lui demander comment ça s'est passé pour lui ou pour elle et surtout comment il a fait pour y survivre. Et les réponses sont très, très troublantes.
Mais elles vont quand même toutes dans le même sens, que c'est, à part pour certains happy few...
C'est très rare qu'on me dise que c'était un top délire trop génial, qu'ils ont envie de recommencer.
Je ne sais plus dans quel livre vous avez fait dire à un personnage que, ben, je crois que c'était dans le Robert des noms propres, que Ionesco sauve...
Oui, non, c'est dans Robert des noms propres, en effet.
Clectrude, hein ?
Oui.
Est-ce que... Je ne veux pas à nouveau, parce que j'ai bien compris qu'il fallait jeter un voile pudique sur cette période que Ange, enfin que Pie surtout traverse dans les aérostats.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a sauvé ?
Oui. Il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un. Mais il y a quand même un livre qui m'a plus sauvé que les autres, qui était le Crépuscule des idoles de Nietzsche, que j'ai lu à 17 ans et dans lequel il y a cette fameuse phrase qui à l'époque n'était pas pour moi le lieu commun nietzschéen puisque je la découvrais, c'est « À l'école de guerre qu'est la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Quand j'ai lu ça à 17 ans, ça m'a fait un effet fou parce que je me suis dit « Mon Dieu, si j'ai résisté à tout ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je dois être forte ?» Et si je prenais ce point de vue-là plutôt que le point de vue qui était le mien précédemment, à savoir que j'étais nulle et que je n'arrivais à rien. C'est à partir de ce moment, du moment où j'ai lu cette phrase dans ce livre que j'ai décidé que j'étais une forte, en fait, et que j'allais prendre le point de vue de la guerrière au lieu de prendre le point de vue de la victime qui s'en sortira jamais.
Ça a fonctionné ? Visiblement.
J'ai l'impression.
Modèle de vertu. Et puis c'est vrai que t'es pas non plus un coup en or. D'ailleurs, si on regarde ton corps quand tu te mets à poil, faut bien avouer que tout nu, t'es pas vraiment l'homme idéal. J'ai aussi appris que tu rêvais d'être Lennon ou McCartney. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux ? T'as fait de ton mieux, ça s'est pas fait. Et puis on m'a dit que la nuit, tu cherchais à revendre ton âme au diable pour qu'il te rende moins laid, plus fort, aimable et stable. Pourtant t'es beau, comme une comète, j'étais dans la peau. Dans la tête, et quand bien même, il y aurait que moi, tu peux pas t'en aller comme ça, parce que t'es beau, comme une planète, j'étais dans la peau, j'étais dans la tête, je te le répéterai, tant qu'il faudra, tu peux pas t'en aller comme ça, puis tu feras quoi, Canet, dis-moi, t'auras l'air fin, ça sert à quoi, Canet, dis-moi, ça sert à rien. Je sais, tu fais parfois du mal aux gens, parce que t'es pas toujours le mec le plus loyal ni le plus franc. Déjà quand t'es normal, toi t'es un peu pas normal justement. Mais en plus quand tu bois, tu deviens rapidement assez sale, limite flippant. Ça t'arrive aussi d'être un peu libidineux quand t'es pas carrément insistant. De faire des trucs pas très élégants pour t'excuser le lendemain piteusement. Et puis tes coups de sang, tiens, on pourrait en parler aussi. Quand tu sors les crocs sans crier gare, prends à rien et contre n'importe qui. Pourtant t'es beau, comme une comète, j'étais dans la peau, j'étais dans la tête. Et quand bien même, y'aurait que moi, tu peux pas t'en aller comme ça, parce que t'es beau, comme une planète, j'étais dans la peau, j'étais dans la tête, je te le répéterai, tant qu'il faudra, tu peux pas t'en aller comme ça, puis tu feras quoi, Canet, dis-moi, t'auras l'air fin, ça sert à quoi, Canet, dis-moi, ça sert à rien.
C'était l'hymne bienveillant et direct de Fauve, Canet, qui illustre, il me semble, à merveille la richesse pas simple de l'adolescence, dont notre Belge bien barré du jour, Amélie Nothomb, s'est plutôt bien sortie. On la retrouve tout de suite et accrochez-vous car cette auteure pas feignante pour un sou va nous parler de l'art d'écrire de bons dialogues, de l'équilibre à trouver entre Apollon et Dionysos et du subtil mais nécessaire travail de tri entre les livres écrits et les livres publiés.
Je suis en train d'écrire le 99e. Donc, je n'en ai somme toute publié que quoi, 28, 29 ? Je crois que c'est le 29e des aérostats. Comme j'ai énormément écrit et que je commence à savoir un petit peu comment ça se passe, pour obtenir de la fluidité, il faut avoir énormément écrit. J'ai peur que ma réponse sonne bizarre, mais il s'agit vraiment de trouver le juste équilibre entre l'apollinien et le dionysiaque.
Vous pouvez développer.
Pour créer, il faut se placer, il faut faire comme les anciens. Les anciens avaient tout compris, il faut invoquer la muse. Et la bonne muse, c'est celle qui est à mi-chemin entre Apollon et Dionysos. En gros, qu'est-ce que c'est ? Apollon, c'est l'ordre, et Dionysos, c'est le désordre. Et si on écrit totalement en se plaçant sous l'ordre, ça donne quelque chose d'effroyablement ennuyeux. Si on crée totalement en se plaçant sous Dionysos, c'est-à-dire dans le désordre, ça donne quelque chose de parfaitement illisible. Donc il faut être juste à mi-chemin entre l'équilibre absolu et le déséquilibre. C'est un endroit qu'il convient de trouver dans son corps. Il faut rester sur son fil. C'est aussi pour ça que mes romans sont assez courts. C'est parce que c'est un tel exercice de funambulisme que forcément ça ne peut pas tenir plus longtemps. Donc quand les gens viennent me dire, avec de très très bonnes intentions, je n'en doute pas, mais pourquoi vous ne faites pas des livres plus longs ? J'ai envie de leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte, je ne pourrais pas tenir sur mon fil plus longtemps. C'est purement une question d'équilibre entre l'apollinien et le dionysiaque, et il m'a fallu beaucoup d'années pour trouver ça, puisque quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans, je me cherchais. Hygiène de l'assassin, qui est mon premier livre publié, c'est le 11e que j'ai écrit. Et voilà, il a fallu beaucoup écrire pour trouver ce point d'équilibre.
This is Amélie.
Bonsoir. T'es belge ?
Oui, ça sent aussi fort que ça ?
Ouais, vachement.
Qu'est-ce que vous faites on va dire 99, c'est génial parce que ça va être très belge, les Français.
Oui,
donc,
ça va être
on
beaucoup
fait 99 moins, moins ceux qui n'ont pas été, on va dire, dans les 70, pour rester...
Oui.
Ils sont où ?
Ils sont dans des boîtes à chaussures chez moi. Et je n'ai pas du tout l'intention de publier un jour. Et pour répondre à la question qui va arriver, il est déjà stipulé dans mon testament qu'à ma mort, ils ne seront pas montrés non plus. Pour autant, ils ne seront pas détruits parce que ce sont mes enfants au même titre que les autres. D'où la question qui me préoccupe, comment les protéger ? Étant entendu que, je ne sais pas, pendant les 50 ou les 75 ans qui suivent ma mort, je garde un certain droit moral sur eux, mais... Après, je ne perds tout droit moral sur eux. Vous me direz, mais Amélie Nothomb, 75 ans après votre mort, plus personne ne sait qui vous êtes. C'est en effet très probable, mais pour le cas où il existe encore 2-3 hurluberlus qui se souviennent de moi et qui veulent voir dans mes archives, ça me préoccupe beaucoup. La solution que j'ai trouvée, parce que j'ai lancé beaucoup d'avis, comment faire pour rendre une œuvre à la fois protégée et inaccessible ? Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était la résine coulée les manuscrits non publiés dans un bloc de résine. À la fois, ils sont protégés et à la fois, ils sont inaccessibles. La question est que faire du bloc de résine, vu qu'il sera assez gros ? Et qui voudra bien ? Pour le coup, on retombe sur la théorie du Vatican. Peut-être que le Vatican voudra bien accueillir le bloc de résine.
Bon, moi, je serais vous, j'essaierai.
Mais c'est ce que j'essaie. Tout ce que je risque, c'est un non, ce qui ne serait pas très grave.
Alors, c'est peut-être une digression. On dit digression ou digression ?
L'un et l'autre se dit ou se disent.
Si je vous dis verger blanc, chiffon filigrané de Hollande, c'est quoi selon vous ?
C'est un très très beau papier de luxe.
Et pourquoi je vous parle de ça ?
C'est pour les exemplaires d'auteurs, c'est ça ?
Alors oui, c'est comme
les
ça
exemplaires
que,
de collection.
C'est comme ça que commence. Donc il y a les premières pages, et puis il est écrit qu'il y en a, je pense, de numérotés de 1 à 25, plus
c'est
10
ça.
Numérotés de 1 à 10 en chiffres romains. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces livres ?
Alors, ceux de 1 à 25, ça ne me concerne absolument pas. Ils appartiennent à la maison d'édition, qui les vend, j'ai cru comprendre, à prix d'or, à des collectionneurs.
Ah, c'est pas offert.
Non, vous plaisantez.
À votre muse,
Et moi, j'en ai 10 que j'ai tendance à offrir.
C'est beau,
mais je les offre soit à des êtres qui sont pour moi très très importants, soit pour des bonnes œuvres.
Ah oui. Et connaissant votre pudeur, vous n'allez pas me dire c'est qui les êtres très importants à qui vous
bien
allez
sûr
offrir
que non.
C'est fort. Il faut quand même parler à un moment donné de cette histoire d'amour, parce qu'il y en a beaucoup autour de vous, mais Albin Michel. Alors j'ai lu sur la toile, internet, que sur ce coup-là, je pense que c'est un autre éditeur qui a ses entrées à Paris, je crois que c'est Flammarion ou Gallimard, qui a raté le coche. C'est une vraie histoire d'amour, Albin Michel. Vous pouvez juste m'en dire quelque chose.
Une vraie histoire d'amour. Eh bien, merci, merci à Gallimard, en la personne de Philippe Solers, d'avoir refusé mon premier manuscrit. Parce que je crois que c'est le plus grand service qui m'a été rendu de toute ma vie, tout simplement. Parce que c'est grâce à ce refus que, croyant faire preuve de moins d'ambition, j'ai choisi Albin Michel, qui lui a accepté tout de suite. Et franchement, Albin Michel, mais c'est l'éditeur parfait pour moi. Je ne pouvais pas le savoir, mais c'est juste ce qu'il me faut. C'est un éditeur extrêmement efficace, de bonne qualité, sans être le moins du monde snob, très accessible. C'est exactement l'éditeur qu'il me faut. Je suis l'enfant de la maison, indépendamment du fait que je n'ai malheureusement plus l'âge d'être un enfant. J'ai mon bureau chez Albin Michel. Je suis le seul écrivain au monde qui a un bureau chez son éditeur sans pour autant exercer de fonction éditoriale. Ça, c'est un cadeau extraordinaire qui m'a été fait par mon éditeur et qui m'a sauvé combien de fois. Et que jamais un autre éditeur ne m'aurait fait. Ne serait-ce que ça, mais c'est énorme. Quand j'ai débarqué à Paris fin 97, je ne m'y sentais pas du tout chez moi, je ne m'y sentais pas bien. Heureusement que j'ai eu un bureau chez mon éditeur. J'avais l'impression d'habiter chez mon éditeur, ça m'a sauvée. C'est peut-être finalement mon seul lieu vraiment à moi. C'est mon bureau chez mon éditeur. À l'intérieur de moi, j'ai une voix qui n'est pas du tout celle que vous entendez.
L'exercice me parut facile. J'écrivis une lettre cordiale. Monsieur Saito se réjouit à l'idée de jouer au golf